et d'aller même de l'avant pour ce qui est des acquis sociaux. Et là, il a décidé de bloquer. On peut penser qu'il s'agit là peut-être d'une tactique de pression, parce qu'il vient d'une région qui est une région houillère, donc une région qui produit du charbon, et peut-être qu'il va utiliser ce vote négatif ou bien pour justement obtenir des acquis pour sa région, qui est une région avant tout houillère.
Jean-François Seznec, Joe Manchin est sénateur de la Virginie-Occidentale, comme l'a dit Marilyn, un État quand même foncièrement républicain, et il explique sa décision par le coût élevé de ce programme et également par l'inflation galopante. En tant qu'économiste, vous comprenez sa réticence?
Oui, absolument. Je pense que Joe Manchin a assez raison de se battre pour ça, parce que l'inflation est le plus gros problème de l'Amérique en ce moment. Et il est certain que l'augmentation des coûts dus à ces programmes sociaux serait énorme et va influencer vers la hausse l'inflation. Et il n'a pas tellement le choix, en fait. Et dans un sens, il rend service un peu aux démocrates, au sens où ils vont être obligés de négocier. Je ne suis pas très négatif au sens où le programme est fini. Je pense qu'en fait, ça redémarre les négociations et le plan sera certainement, à mon avis en tous les cas, pourra certainement être diminué sérieusement et repasser dans les chambres vers la mi-janvier ou la fin janvier.
René Lec, vous êtes d'accord que Joe Manchin rend un peu service aux démocrates? En fait, il dit que les démocrates négocient comme s'ils avaient 55 ou 60 sénateurs, donc une majorité confortable.
Oui, c'est ce qu'il dit, mais en réalité, vous savez, 2-3 jours avant cette annonce, il avait lui-même discuté d'un plan qui arrivait au même montant, à peu près les 2,2 trillions de dollars, donc 2200 milliards de dollars. Donc tous les arguments qui sont donnés sont plus des arguments qu'autre chose. Je pense qu'ici on est en plein dans le domaine politique. Ce n'est pas étonnant à Abdurrahman que ce soit sur Fox News qu'il ait fait une telle annonce. C'est pas étonnant, c'est un peu sarcastique en disant ça, mais en réalité c'est fort étonnant qu'un démocrate fasse une annonce aussi importante sur une telle chaîne de télévision.
Très conservatrice,
très anti-Biden, très anti-démocrate. Mais au fond, ce qui est en jeu ici, à mon avis, c'est un jeu politique. Il ne faut pas oublier son état, la Virginie de l'Ouest, a été gagné par Trump à 69%. Politiquement, c'est un peu dans son intérêt, bien que bon, il a encore 4 ans devant lui avant d'aller à une élection. Mais c'est vrai que c'est quand même étonnant, parce que quelque part 68% des membres de son État supportent cette loi. Donc quelque part, il y a une contradiction qu'il devra régler. Mais si vous vous souvenez, son argument principal est un argument lié essentiellement à des questions d'ego. Il a considéré qu'il n'avait pas été respecté par les aides de la Maison-Blanche et qu'ils ont enlevé quelque chose. Il n'a jamais dit précisément de quoi il s'agissait, et qu'ils savent très bien, il a dit ce qu'ils ont enlevé, c'est inacceptable. Donc bref, quoi, c'est plus des questions d'ego, et je pense qu'en dernier ressort, ça va être réglé.
Mais justement, Marilyn, est-ce que cela va être facile entre Manchin et les progressistes de recoller les morceaux, surtout après les déclarations de part et d'autre depuis le week-end?
Alors, recoller les morceaux, évidemment, ça va être extrêmement difficile. Ce sera un véritable challenge, parce que les progressistes, surtout Bernie Sanders parmi eux, essayent surtout de faire avancer les acquis sociaux. Et ça, pour eux, c'est extrêmement important. Il s'agissait quand même, dans cette proposition de loi, d'octroyer $300 par enfant comme allocation, et ce qui est extrêmement important pour une grosse partie de la population qui s'enlisait de plus en plus dans la pauvreté. Et comme vous le savez, depuis l'arrivée de Joe Biden au pouvoir, il y a à peu près 50 millions de personnes qui ont pu justement, grâce à ces efforts de la part des démocrates de sortir, si vous voulez, de la pauvreté. Donc ça, c'est extrêmement, c'est les acquis que l'on propose, que proposent les progressistes, sont extrêmement importants pour ce qui est de renforcer les acquis sociaux.
Jean-François Sesnec, Joe Biden s'est toujours présenté comme le négociateur, le rassembleur. Est-ce qu'il s'est trompé d'époque? On a l'impression que le milieu est un peu en train de disparaître. Soit on est carrément à droite, carrément à gauche. Oui. Comment est-ce qu'il peut naviguer tout cela?
C'est avec beaucoup de difficultés, c'est sûr. Le milieu est en train de disparaître et je pense que ce qu'essayent de faire Biden et Manchin en ce moment, c'est de recoller, si vous voulez, un milieu. Et parce que je pense, à mon avis, que les extrêmes sont trop puissants et que il y a une certaine déconnexion en ce moment de la gauche démocrate vis-à-vis du reste de la population dans le centre des États-Unis qui contrôle un petit peu les votes et ils vont avoir beaucoup de problèmes si les programmes sociaux sont trop poussés et recommencent à développer une inflation qui est trop importante. Donc je pense qu'ils vont être obligés de faire un accord, si vous voulez, et de faire tout revenir vers le milieu, comme Manchin et Biden, en fait, voudraient le faire.
Et pour rester un peu dans ce sens, René, entre le Covid et la bataille idéologique au sein de son parti, comment est-ce que Biden peut garder l'unité de ses troupes en vue des élections de mi-mandat?
Oui, la situation n'est pas des meilleures pour les démocrates, c'est sûr. Il y a la pandémie, comme vous l'avez indiqué, il y a l'inflation, mais il y a aussi la crise de la chaîne d'approvisionnement. Bien qu'il y a juste quelques heures, Biden lui-même disait que la question semble plus ou moins réglée, donc il faudra bien voir. Mais il y a aussi quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant, mais je ne sais pas si politiquement ça va vraiment lui servir. Il dit que l'Amérique est le seul pays au monde, de l'ensemble des pays de la planète, y compris tous les pays industrialisés, où l'économie aujourd'hui est plus forte qu'elle ne l'était avant la pandémie. Donc c'est vrai que c'est un argument fort, mais je ne sais pas, vous savez, Abdourahmane, quand ces choses n'ont pas d'impact directement dans la vie des gens, et qu'au quotidien la vie paraît plus difficile, l'essence est plus chère, les produits alimentaires sont plus chers, ce genre de considérations macroéconomiques ne sont peut-être pas très parlantes et très convaincantes.
Et Marilyn, avant d'aller aux commentaires Facebook, je voulais avoir votre réaction sur ce que disait Jean-François Sesnec. La gauche est-elle en déconnexion avec la réalité, ou en tout cas une bonne partie des Américains?
Alors la gauche américaine n'est pas du tout en déconnexion avec les réalités américaines, au contraire, elle est très en phase, à mon avis, avec les réalités américaines, parce que les Américains ont vu la middle class, la classe moyenne, de plus en plus se réduire, de plus en plus. Or, ce que proposent les démocrates, surtout les démocrates progressistes, c'est justement d'essayer de renforcer.
Mais l'inflation est une réalité et certains estiment que c'est à cause de cette injection de monnaie dans l'économie. C'est un argument que vous n'acceptez pas?
Non, ce n'est pas tout à fait, ce n'est pas un argument que j'accepte, parce que bon, il y a aussi ce qui peut, il y a aussi des mesures qui peuvent endiguer l'inflation, par exemple les tarifs que l'on impose aux produits venant de Chine, ça peut contribuer à endiguer l'inflation, si évidemment il n'y a pas cette espèce de guerre
froide. D'accord, un dernier tour avant le Facebook, Jean-François et puis René, et on va au Facebook. 30 secondes. Sur cette même question de l'inflation.
Ah oui, d'accord. Bah, écoutez, je pense effectivement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Marilyn là-dessus. Je pense que l'inflation a été est en partie due à l'injection, l'énorme injection de capital qui a fait beaucoup de bien l'année dernière. Et depuis quelques années, l'augmentation de la dette est énorme. Ça pose des risques très importants, surtout si les taux d'intérêt commencent à remonter. Le coût va être absolument impossible.
D'accord, René.
Oui, écoutez, je ne pense pas que ce soit déterminant. L'inflation, elle est mondiale du fait de la période qu'on vient traverser avec la baisse de production liée à la pandémie. Mais ce n'est pas un facteur essentiel. L'état d'économie se développe et se développe très bien avec l'inflation. Au moment où l'inflation était relativement maximale il y a quelques semaines, quelques mois, le Dow Jones à la bourse était au-delà de 36 000 points.
D'accord.
Donc, c'est pas un facteur.
D'accord, merci. Voici rapidement quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Nous avons Archiduc plutôt Bonheur Kassanda à Kinshasa qui nous dit tout président arrivé au pouvoir entre 2019 et 2021 passe des moments très difficiles pour gouverner suite à cette crise financière et économique mondiale causée par le Covid-19. Archiduc Théodore Ndjamena écrit il faut redoubler d'efforts dans la lutte contre le Covid-19, le chômage et l'insécurité, des facteurs susceptibles d'affecter négativement l'économie américaine. Et puis, Excellence Kaba, qui nous dit qu'il est partisan de Donald Trump, il est à Conakry, il nous dit s'il ne peut plus gouverner alors qu'il démissionne. Voilà, merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après. L'administration Biden a pris ses fonctions en promettant l'Amérique est de retour et le secrétaire d'État Antony Blinken s'est engagé à travailler en étroite collaboration avec les alliés et renforcer leurs liens. Mais les crises, les coups d'État et les conflits inattendus en Éthiopie, en Haïti, en Birmanie, au Soudan et en Ukraine ont particulièrement occupé le plus haut diplomate américain en 2021. Un sujet de la correspondante de la VOA au State Department, Cindy Sen, et c'est un récit de Claire Mongibourg.
La prestation de serment du diplomate expérimenté Antony Blinken en tant que 71e secrétaire d'État américain en janvier dernier a suscité beaucoup d'espoir parmi de nombreux alliés et observateurs américains dans le monde.
C'est un jour nouveau pour l'Amérique, c'est un jour nouveau pour le monde.
S'adressant au personnel du Département d'État dès le premier jour, Antony Blinken a affiché ses grandes ambitions.
Le monde veut voir comment nous pouvons soigner nos blessures et redevenir le pays dont tout le monde veut suivre l'exemple. Si nous allons privilégier la diplomatie avec nos partenaires et nos alliés pour relever les grands défis de notre temps, comme la pandémie, le changement climatique, la crise économique, les menaces pour les démocraties, les combats pour la justice raciale et le danger pour notre sécurité et la stabilité mondiale posée par nos rivaux et adversaires.
Mais ces promesses, faites en janvier 2021, se sont heurtées à la dure réalité du terrain. Un coup d'état militaire en février en Birmanie, suivi d'une violente répression contre des dizaines de milliers de manifestants, l'assassinat du président haïtien en juillet et un coup d'état militaire en octobre au Soudan ne sont que quelques-unes des crises internationales auxquelles l'administration Biden a été confrontée durant l'année. Les États-Unis s'efforcent également d'aider à mettre fin au conflit qui a commencé il y a un an dans la région du Tigré, dans le nord de l'Éthiopie, où des millions de personnes sont désormais confrontées à la famine. Je pense que l'administration Biden a fait un effort considérable pour s'engager diplomatiquement sur cette question avec la nomination de l'envoyé spécial Jeffrey Feltman. Mais rien de tout cela n'a vraiment apporté un changement de comportement. Et donc maintenant, nous sommes au bord du précipice avec une possibilité d'effondrement en Éthiopie. Malgré tous ces défis à l'étranger, les analystes affirment que le président américain Joe Biden et son proche confident Blinken ont réussi à atteindre leur objectif principal. Réparer ce qu'ils considèrent comme des relations et des alliances critiques endommagées par la vision du monde « America First » de l'ancien président Donald Trump.
Dans l'ensemble, je pense qu'ils ont pu s'en tenir à leur stratégie globale avec le voyage du président Biden en Europe au printemps et ses efforts pour renforcer les partenariats et les alliances avec nos alliés démocrates européens. Et de même en Asie aussi, pour tenter de rallier des pays un peu incertains sur la direction que prendraient les États-Unis.
Mais les analystes disent que le retrait chaotique des États-Unis d'Afghanistan en août a mis l'administration Biden à rude épreuve, ainsi que la réponse furieuse de la France à l'accord commercial sur des sous-marins entre les États-Unis et l'Australie.
L'accord avec l'Europe a été réparé. Il y a eu des ratés en cours de route, tout c'est sûr. En Afghanistan et les accords sur les sous-marins au cul, ce sont deux assez gros ratés. Mais l'alliance fonctionne beaucoup mieux.
À l'approche de 2022, la Chine et d'autres adversaires des Américains observent comment Joe Biden et Anthony Blinken vont gérer le renforcement militaire massif de la Russie le long de la frontière ukrainienne et si les États-Unis vont honorer leurs engagements envers l'intégrité territoriale de leurs alliés.
Merci beaucoup Claire et je rappelle nos invités à Washington, Marilyn Sefok, le professeur à Howard University, à Annapolis dans le Maryland, Jean-François Seznec, politologue et économiste Atlantic Council, et à Dakar, René Lec, analyste politique basé ici à Washington. Alors René, justement l'Ukraine qui cherche à rejoindre l'OTAN et sous la menace russe, peut-on parler de patate chaude pour l'administration Biden?
Oui, c'est une question assez difficile, surtout que, comme vous le savez, les Russes renforcent leur position au niveau de la frontière, et cela déjà depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même, devrais-je dire, et il semblerait que cela ne va en augmentant. Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis il y a quelques jours, Poutine lui-même a annoncé qu'il était prêt à des discussions avec ce qu'on appelle les 2+1, hein, ce serait les États-Unis et la Russie, plus maintenant l'Union européenne, pour discuter de la question de l'OTAN, mais de la question ukrainienne en particulier. On va voir, je crois que le jeu de Poutine, c'est de pouvoir négocier et discuter d'égal à égal avec les États-Unis et qu'au fond, il y a un jeu géostratégique qui se joue à ce niveau-là. Et malheureusement, l'Ukraine en est un peu la victime.
Jean-François Seznec, Biden a tenu à enterrer l'America First de Trump en brandissant America is back, ou l'Amérique est de retour. Est-ce qu'il est en train de réussir son pari selon vous?
Oui, je pense qu'il travaille bien pour tenir le support de l'Europe, du Japon en particulier, mais ils ont certainement des problèmes à résoudre. Il est certain que l'Ukraine est un énorme problème et que les Russes prennent avantage de la situation pour forcer l'OTAN à ne pas inclure l'Ukraine. Je crois que c'est le problème de base. Les Russes ne veulent absolument pas avoir l'OTAN aux portes de la Russie et donc font tout ce qu'il faut pour pousser ça. Mais en d'autres termes, je pense que les négociations de Blinken, même s'il y a des problèmes avec les sous-marins français, etc., je pense qu'ils ont fait des progrès énormes pour revenir en arrière sur les problèmes qu'avait créé l'administration Trump.
Et
Mais Marlene, une des grandes décisions en politique étrangère cette année a été le retour à l'accord de Paris sur le climat. Vous pensez que les États-Unis vont continuer à jouer un rôle de leader dans la lutte contre le changement climatique sous Biden?
Absolument. Je pense que d'ailleurs, c'est poussé par bon nombre de... c'est un agenda qui est poussé par bon nombre de progressistes. Et je pense que là, il y aura sans doute un succès quand même assez franc. Beaucoup plus, en tout cas, remarquable et remarqué que les succès en Europe de l'Est. Là où je pense qu'il y a matière également à discussion, simplement parce que bon, il faut aussi faire très attention parce qu'il y a également des enjeux en matière énergétique, surtout pour ce qui est du gaz que la Russie fournit à l'Europe. Donc il y a énormément. Ces tensions devront être apaisées au maximum, tant par l'administration Trump, Biden surtout, que par les Européens eux-mêmes.
D'accord. Et René, peut-être après cette première année de Joe Biden à la Maison-Blanche, comment est-ce que vous jugez son agenda africain, surtout dans le contexte de la poussée chinoise sur le continent?
Écoutez, je crois que là aussi en Afrique, America is back. Vous savez, les années Trump, on était passé de 110 milliards de dollars d'investissement sur l'Afrique, d'investissement américain sur l'Afrique. On était tombé autour de 50, à peu près la moitié. Là, je pense que tout va remonter. Le secrétaire d'État a fait une tournée dans trois pays africains. Donc, il cherche à se repositionner. Et c'est vrai, depuis 2005 en particulier, les Chinois ont investi en construction, investissement financier, plus de 2000 milliards de dollars sur le continent africain. Les Russes, eux, de leur côté également, ont signé une dizaine d'accords, notamment de bases militaires. Donc, les Russes et les Chinois s'activent énormément en Afrique et je crois que les Américains ont une bonne lecture de ce qui se passe et sont en train d'essayer de re-rentrer dans la course, si vous me permettez l'expression, abnormale.
D'accord. Et Jean-François, rapidement, je sais que vous travaillez beaucoup plus sur le Moyen-Orient, mais la Chine en Afrique, les États-Unis aussi qui veulent réclamer leur rôle en Afrique surtout, comment est-ce que vous jugez tout cela? Sans compter une poussée aussi de certains pays du Moyen-Orient, comme le Qatar en Afrique.
Le Qatar, les Émirats aussi font beaucoup d'efforts en Éthiopie et sur la Corne d'Afrique en général, mais il est certain que la Chine a énormément fait de progrès dans toute l'Afrique et a pris beaucoup de l'importance qu'avait la France et qu'avaient les États-Unis. Mais il est certain qu'il y a des gros efforts faits par les États-Unis pour retourner un peu en Afrique, mais malheureusement, à mon avis, la décision de sortir de l'Afghanistan, qui est absolument nécessaire à mon avis, mais va créer des gros problèmes dans le Sahel parce que les groupes extrémistes vont en profiter, surtout au vu du départ des Français, pour essayer de prendre beaucoup de grosses entre les États-Unis.
Abdelrahman, avec votre permission, je veux juste corriger quelque chose que j'ai dit tout de suite. J'ai dit une dizaine d'accords avec les Russes, c'est à peu près ça, mais pour être très précis, depuis 2005, c'est 7 accords militaires patients.
D'accord. En tout cas, malheureusement, on arrive à la fin de ce Washington Forum. René, vous aviez le dernier mot. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre site voafrique.com et sur notre page Facebook. Un grand merci également à toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.